Et je t'aime encore, Céline Dion, une chanson dédiée à notre prochaine invitée parce que je connais son amour infini pour la chanteuse, parce que je sais qu'il serait capable d'en faire une excellente version et parce que on vous aime encore, Jean-Sébastien Gérard, même si vous nous avez abandonnés dimanche dernier, puisque c'était la dernière de la soirée T'es encore jeune.
Oui.
Après 10 ans. Bonjour Jean-Sébastien Gérard.
Bonjour, merci de me recevoir. Je chantais à toute tête dans ma cuisine.
J'en suis convaincue. Ah, avoir su! On aurait monté le son du téléphone. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir vous parler. Vous êtes avec nous pour présenter le documentaire « Derrière la porte d'un proche aidant » auquel vous avez participé. On va y arriver, je vous le jure, je vous le promets. Mais avant tout, la question que plusieurs personnes vous posent de ces temps-ci, est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions depuis dimanche?
Bien, ça commence doucement, mais je dois avouer que j'ai trouvé ça pas mal plus dur que je le pensais, et pas que moi, mais mes deux compères, Jean-Philippe Bautier et Lévi Niquet aussi. C'est comme si on avait sous-estimé, en fait, la charge émotive qui allait accompagner la fin de cette mission-là. Ça fait quand même 2-3 ans qu'on se pose des questions. On se dit, bon, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on peut se réinventer? Ensuite, il y a eu la pandémie qui, c'est étrange à dire, mais qui était quand même assez salutaire pour nous parce que ça nous a forcé à nous réinventer. On a perdu le public. Donc, on a un peu l'impression d'avoir reconstruit une nouvelle émission. Donc, finalement, on s'est rendu à 10 ans, mais bon, on sait que c'est un beau cycle, qu'on était rendu à la fin de la vie, et on a quand même annoncé ça en septembre dernier. Donc, ça fait un an qu'on le sait qu'on part, puis on s'est dit, bon, évidemment, on va sûrement verser une petite larme après, mais le lendemain, on va passer à autre chose, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Non.
D'abord, on a pleuré pendant 2 heures. Olivier Niquet, qui est la personne la plus réservée au monde, a craqué, a pleuré tout le long. Et les premiers jours, les 2 premiers jours surtout, je peux comparer ça, l'analogie que j'ai en tête, c'est vraiment la peine d'amour, la brûlure amoureuse.
Ah, c'est oui.
Oui, le lendemain matin, ça me faisait mal de penser à la soirée, je pensais à un gag de la soirée, je pensais à des moments, il y avait une douleur physique, là, et on s'ennuyait, il y a eu un déjeuner le lendemain, puis là, on s'est crié, on va aller prendre des verres, ce qu'on faisait pas du tout dans la vie avant la fin de la soirée, là, on veut se voir, ça va se replacer, mais... Et oui,
mais là, c'est plus doux, là, vous.
C'est aujourd'hui, ça commence à être plus doux. Là,
oui.
Les vacances s'en viennent, puis là, forcément, on commence à travailler sur nos autres projets. Mais il y a eu 2-3 jours, là, le cliché de la petite boule sur le divan, puis pourquoi on a fait ça, la plus belle histoire de notre vie, c'est effrayant. Puis ben, il y a eu ça pendant 2-3 jours.
C'est pas parce que je veux mettre le couteau dans votre plaie, mais on s'ennuie déjà de l'émission. Est-ce que vous avez déjà planifié vos 5 à 7 du week-end prochain? Jean-Sébastien.
Non, moi, il va y avoir j'ai un spectacle, j'ai un premier one-man show, donc ça va quand même occuper beaucoup les week-ends, tu sais, bon, la raison première pour laquelle les deux autres garçons voulaient arrêter, c'est l'horaire de fin de semaine. Ils ont des familles, eux, ils ont des enfants, tout ça. Et c'est normal, ça fait 10 ans qu'ils font pas d'activité avec eux la fin de semaine. Moi, ça changera pas beaucoup parce qu'évidemment, les spectacles, c'est beaucoup le vendredi, le samedi. Donc, ça va être surtout occupé à ça, mes journées. Bon, un mercredi puis un samedi, ça se ressemble pas mal. Mais
Et il y a la côte amalfitaine aussi qui s'en vient.
Oui, demain.
Oh, c'est demain!
C'est demain, je suis dans mes valises.
Oh.
Je suis en train de regarder des petites vidéos. Je me prépare beaucoup pour les voyages parce que je trouve que l'attente, la planification fait autant partie du voyage, du plaisir. Fait que je regarde des vidéos sur YouTube et je me dis demain, je vais être là dans 24 heures.
Ah, ben là,
en Italie.
Quand vous allez être en Italie, ça va vous aider à faire la coupure, le deuil.
Oui, exactement.
Ouais, ouais.
Voilà.
Alors, Jean-Sébastien Gérard, vous prêtez votre voix au documentaire intitulé « Derrière la porte d'un proche aidant » qui sera diffusé samedi soir à 22h30 sur ICI Télé dans le cadre de Doc Humanité. Alors, pourquoi on vous approchez, vous? Quelle a été aussi votre implication dans le documentaire?
Bon, mais c'est une excellente question parce que quand on m'a appelé, je ne comprenais pas vraiment pourquoi on m'appelait. Puis bon, il y a des choses que j'ai apprises, c'est intéressant. Ils m'ont dit, comme tu es aidant naturel, est-ce que tu aimerais faire l'animation, c'est-à-dire la narration, puis ensuite faire comme la promo, parler, défendre ce documentaire-là? J'ai fait comme, c'est une cause très noble, elle me concerne pour éventuellement, mais je ne suis pas un proche aidant. Puis là, on t'écoute tout le temps à la soirée, et d'après tes récits, tu es un proche aidant. Puis je suis comme, un proche aidant, tu sais, ce qu'on imagine, hein, c'est quelqu'un qui est constamment avec le conjoint-conjointe ou le parent. Tu sais, j'imagine que c'est quelqu'un qu'on doit alimenter, quelqu'un qu'on doit laver, même à l'extrême, qu'on doit changer de couche, on doit faire garder. Tu sais, je pense, Sonia Benezra en parle beaucoup. Tu sais, quand on invite sur un plateau Sonia Benezra, elle doit trouver une gardienne. C'est toute une vie, toute sa vie est articulée autour de ça. Moi, je dis, ben non, ma mère, oui, c'est ma voisine. Elle habite à côté de chez moi, on se voit tous les jours, tout ça, je l'aide pour faire des petits trucs, mais non, tu sais. Puis en fait, on t'a entendu dire, mais tu l'accompagnes à tous ces rendez-vous médicaux, c'est toi qui s'occupe, bon, d'Internet, d'imprimer le passeport, tu vas faire maintenant ta commande avec elle, tu l'aides à ramener. Puis je suis comme, bah oui, ça, c'est comme de l'aide, mais on dit, c'est ça, c'est que l'aidance naturelle, c'est un très large spectre, et il y a bien sûr un tout début, parce que moi, c'est vraiment le tout début, puis je l'ai dit, il y a comme une pudeur pour moi d'employer ce terme-là, quand je vois justement dans le documentaire des gens dont toute la vie est bouleversée. Je veux dire, moi, ce que je fais, c'est anecdotique et c'est naturel pour moi. Ben, naturel, c'est... Oui, c'est dans naturel, fait que c'est toujours naturel d'une certaine façon. Mais je veux dire, pour moi, c'est des petites choses de rien du tout. Mais semble-t-il que oui, ça commence comme ça souvent parce que, bon, il y a deux options. Soit que ça commence de manière assez brutale, soit parce qu'il y a eu, je sais pas, une maladie qui arrive soudainement, un AVC qui paralyse ou un truc comme ça. Mais souvent, c'est juste la vieillesse qui s'installe et ça commence par des petites choses, puis tranquillement, ben, il y a des heures qui s'accumulent. On dit que quand on consacre plus de 10 heures à une autre personne dans une semaine, ben, on entre dans le spectre de l'aidance naturelle et que bien sûr, ensuite, ça va. Et ça, c'est surtout ça qu'on voit dans le documentaire, des gens là, pour qui ben, ça prend toute la journée, que ça prend toute la vie et que ça prend beaucoup de place. Donc, je trouve ça intéressant, c'est oui, de savoir qu'on peut être aidant naturel sans le savoir et que ça commence comme ça. Et qu'il y a même des gens qui on le voit dans le documentaire, quelqu'un qui s'occupe beaucoup, beaucoup de quelqu'un. Puis tu fais que moi, je ne savais pas que j'étais proche aidant. On le voit aussi de différentes communautés culturelles parce que, ben, si on le répète souvent, il y a des cultures pour qui c'est impensable.
Ben que c'est naturel de s'occuper de...
Que c'est naturel, ben oui, c'est qu'il n'y a même pas l'option. Est-ce que je m'en occupe ou si on met en institution, c'est naturel, c'est pour des choses. Tu t'es occupé de moi, c'est à mon tour. Et puis, les vies fonctionnent comme ça. Ici, c'est peut-être un petit peu moins dans la nature, mais il y a des cultures qui ne considèrent même pas que ça existe, ce concept-là des dents naturelles. C'est juste, c'est comme ça que ça marche dans la vie.
Oui. Et c'est ça, il y a plein de chiffres, mais il y a aussi plein d'humains dans ce documentaire-là, là, des proches aidants, des proches aidantes, avec leurs aidés. On les voit dans leur contexte, dans la maison. C'est ce qui fait aussi la force et l'humanité. Ça s'appelle Documanité, c'est pas pour rien, de ce documentaire-là, qui est réalisé par Marie-Ève Potvin.
Oui, et, premier documentaire qu'elle réalise.
Ah oui, c'est son premier?
Premier essai, et je
c'est moi, réussi.
Ça m'a bouleversé. C'est très réussi, ça m'a bouleversé. Et je trouve ça intéressant parce que c'est une vraie incursion dans l'univers de ces gens-là parce que on connaît tous le concept, tu sais, qui, depuis quelques années, heureusement, on en parle de plus en plus, mais j'ai l'impression que le concept demeure flou.
Oui.
Quand on n'est pas concerné directement, on n'a pas parlé du concept qu'on imagine, c'est quoi, mais là, on est vraiment dans le quotidien. Il y a des scènes, moi, c'est ce couple, où la dame, il est comme son mari doit faire une espèce de potion avec du jus, de la poudre. Puis là, on le voit en temps réel et on voit comment tout est compliqué pour le monsieur et qu'il a perdu tous ses repères. Et là, pour qu'il garde un minimum d'autonomie, elle ne veut pas tout faire à sa place. Donc, elle dit, mets la poudre dans le verre. Et là, ça prend une éternité. Là, il faut que tu mettes du jus, mais il faut que tu brasses le jus. Là, il se met à brasser le jus. Puis là, il brasse. Mais son cerveau, il ne indique pas le moment où il a assez brassé.
Il ne fait pas ça pour l'écœurer, si je peux me permettre.
Non, pas du tout. Comme, il sait pas, nous, on a le réflexe, on brasse le jus, 3, 4, 5 coups, on sait que c'est brassé, lui, pas fait comme. Là, je pense que c'est correct. Verse-le, il sait pas comment le verser. Utilise la cuillère pour brasser la. Et cette scène-là dure peut-être 5 minutes juste pour qu'il mélange une poudre de vitamines, je pense, avec du jus. Et ça prend une éternité, puis on est à bout au bout de 5 minutes, et on se dit, cette femme-là, c'est son quotidien, tu sais. Et malgré tout, on la voit sur son divan, puis il y a. C'est cliché là, de dire que malgré c'est comme la douleur puis le poids de
ces
là, il y a une lumière, il y a quelque chose de contente, elle veut être là pour lui, elle trouve ça difficile et malgré ces difficultés là, il y a une lumière dans le regard de tous ces participants là qui se sentent utiles, qui sont contents, qui sont à bout de souffle souvent, qui sont épuisés, qui voudraient plus de support, mais qui sont contents de pouvoir le faire.
Oui, ils sont à bout de souffle, puis ils peuvent aussi tomber malades parce qu'ils sont, à un moment donné, ils s'oublient complètement pour l'autre.
Oui. Et ça, je ne sais pas, mais je pense qu'on est nombreux. On a cette expérience-là dans nos familles. Un oncle, une tante qui accompagnait quelqu'un de très malade. Et finalement, celui qui l'accompagnait tombe malade en même temps, mort quelques temps après, alors qu'il est en santé. C'est tellement drainant. On parle il y a des termes de plus en plus. On parle de burn-out, d'accompagnement. Puis c'est comme, on parle de charge mentale pour la vie fonctionnelle de tous les jours. Mais imaginez quand juste aller chercher une pinte de lait au dépanneur, on a besoin d'une gardienne, on a besoin de quelqu'un qu'il faut tout prévoir. Il n'y a plus aucune place pour soi là-dedans. Et j'ai une admiration incroyable pour tous les participants de ce documentaire-là qui le font avec une
générosité.
Une forme d'abnégation où tu dis, puis oui, on parle de support, puis c'est plate, mais on parle d'argent parce que quand tu fais ça, ben la place pour le travail, pour les projets est bien moins là. Fait que ça coûte cher être un aidant naturel. Puis, on le répète, on essaie de voir un petit peu les solutions. Bon, ici, Marguerite Blais s'est impliquée en politique, oui, pour qu'on reconnaisse, et on reconnaît maintenant les
statuts d'une naturelle, personne proche aidante.
C'est ça. Mais tout n'est pas parfait, c'est pas adapté à toutes les situations. Il y a des gens qui se demandent s'ils devraient être rémunérés, d'autres disent non, mais il y a beaucoup de questions qui sont soulevées parce que on sait, puis on le répète depuis des années, que le vieillissement de la population s'accélère pendant que les gens qui peuvent s'en occuper, ben ces gens-là se multiplient pas, là, ce chiffre-là stagne, ça demeure tout le temps le même bassin de personnes, alors que de plus en plus, donc on sait que le réseau a besoin de ces gens-là. Si demain matin, tous les aidants naturels disent bon, ben c'est terminé, cette sanitisation, nous, on n'est plus capable, le réseau ne peut pas les supporter. Ils font partie de l'équation présentement, ils sont nécessaires. Et ça va devenir de plus en plus criant parce que les baby boomers, en chiffres, en statistiques, ils deviennent de plus en plus nombreux et vieillissent et il y a moins de jeunes, entre guillemets, pour s'en occuper. Ça devient de plus en plus un problème pour lesquels il faut se poser des questions. Puis se poser des questions aussi entre familles, il y a un tabou aussi. Tu sais, on évoque dans le documentaire, est-ce que vous en parlez avec les proches? Puis je pense que c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé. Mais moi, je le fais pas. Tu sais, je vous parle d'un documentaire, je porte cette cause-là dans des entrevues parce qu'elle me concerne, parce que je suis enfant unique, parce que ma mère vieillit, puis je sais ce qui m'attend, mais pourtant, c'est une discussion que j'ai pas avec ma mère. J'ai peur de le nommer parce que de le nommer, j'ai l'impression que ça le fait exister, ça fait que j'assume que ma mère vieillit, que ces choses-là vont arriver. Je suis dans une espèce de déni, comme beaucoup de gens, mais est-ce qu'on a la conversation en couple? Est-ce qu'on a la conversation en famille? Qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que je veux qu'on s'occupe de moi? Est-ce que je veux ça? Est-ce que les gens qui m'entourent ont envie de jouer ce rôle-là, se sentent capables de jouer ce rôle-là? Jusqu'où un et l'autre veut aller? Il y a la culpabilité aussi qui vient jouer dans ces décisions-là. C'est très complexe. Il y a vraiment des discussions, je pense, qu'il faut avoir, savoir où, pour connaître les besoins de l'un et de l'autre avant que la situation se présente.
Est-ce que vous l'avez dit à votre mère que vous aviez prêté votre voix à ce documentaire-là?
Oui, je lui ai dit et j'avais comme beaucoup de difficultés à lui dire pourquoi. Puis là, je fais des entrevues, puis elle fait comme « Hein, t'es un aidant naturel? » Je suis comme « Oui, mais tu sais, c'est un peu exagéré. Je suis pas aidant. » Fait que je veux comme le minimiser parce que je veux pas qu'elle se sente comme un peu diminué ou qu'elle se sente, parce que tu sais, c'est ça, son char est autonome, elle a ses amis.
Mais oui.
Je veux pas qu'elle ait cette lecture-là de que tranquillement, elle devient, parce que bon, puis comme je le dis avec humilité, ce que je vis a rien à voir avec les gens qu'on voit dans le documentaire.
Mais vous faites partie du spectre, comme vous le disiez, là.
Ben voilà, fait que l'éventail, en fait, je fais partie de la barre de l'éventail, mais on entre dedans, mais je veux pas que ma mère sente que, je veux pas qu'elle le sente, donc je lui en parle, mais comme, bon, ils m'ont demandé ça, mais c'est un peu exagéré, tu sais, puis j'en parle pas trop, tu sais, puis comme je l'ai dit, je suis un peu dans le déni, je veux pas avoir cette conversation-là, parce que j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme un peu la chose niaiseuse, on veut pas se faire un testament, comme on sait que ça fait pas mourir, mais on dirait que ça confronte à des choses, puis comme plein des Québécois, je suis dans un déni que je trouve plus confortable, même si c'est niaiseux.
Oui, mais en même temps, c'est humain en même temps.
Oui, c'est ça, je pense que oui.
Alors, Jean-Sébastien, c'est tout le temps qu'on a, j'aurais aimé vous parler davantage, mais peut-être qu'on pourra se reprendre parce que vous avez plein de choses à votre menu.
Ben oui, on prendra ça.
Ah oui, j'aimerais ça pour parler de votre show, Un garçon pas comme les autres, votre premier spectacle solo, votre émission radio JS Tendresse. Moi, j'ai animé PS Tendresse, mais vous, vous animez JS Tendresse. Ben oui, je suis Hélène Denis qui a remplacé Jean Doyon.
Ah, ben voyons! Alors, pour vrai, j'avais comme beaucoup d'entrevues cette semaine, j'ai comme pas regardé le nom, mais là, vous êtes une idole d'enfance, ça veut dire.
Oh, vous êtes trop fin. Alors, Jean-Sébastien, c'est un rendez-vous pour une prochaine fois et laissez-moi vous dire merci pour tout, vous avez un talent infini, puis passez de belles vacances sur la côte amalfitaine.
Je vais prendre un limoncello en pensant à vous.
Oh, vous êtes fin. À la prochaine, merci Jean-Sébastien.
Bye bye.